Alors, bon sabbat à vous tous. Bon dernier jour des pains sans levain. Je devrais dire déjà le dernier jour des pains sans levain. Si vous êtes comme moi, ça a été comme un film qui s'est déroulé tellement rapidement cette semaine, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est incroyable ce que Dieu nous a montré, les encouragements qu'il nous a donnés. Dernier jour des pains sans levain. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'enthousiasme de la fête des pains sans levain ». L'enthousiasme de la fête des pains sans levain. Vous pourrez vous reporter à Psaume 119. Pourquoi l'enthousiasme de la fête des pains sans levain? Tout simplement parce que c'est le symbole de notre délivrance du péché par le Christ, de notre délivrance de l'esclavage du péché par le Christ, de la délivrance de nos faiblesses par le Christ, qui vit dans ceux qui ont été appelés et qui ont reçu le Saint-Esprit après leur baptême lors de l'imposition des mains. Et regardez ce que David dit dans le psaume 119, le verset 18. Et c'est une chose qu'on a demandé cette semaine, et qu'on doit continuer à demander à Dieu tout au long de l'année. Verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Dieu a donné ses lois, pas pour nous priver de quoi que ce soit, pas pour être dur envers nous, parce qu'il nous aime et qu'il nous a donné ses lignes directrices qui dirigent le chemin du bonheur. C'est pour que nous soyons heureux. Et regardez le verset 17. Ça aussi, on doit demander ça à Dieu dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Fais du bien à ton serviteur. Fais-moi du bien, Dieu. Pourquoi? Pour que je vive dans le vrai sens de vivre et que j'observe ta parole. Ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, la vie éternelle, comme le Christ a dit, c'est qu'il te connaisse, toi, Père. On a vu ça au moment de la Pâque. Et voilà de qui nous devons recevoir la victoire. De Dieu. Parce que nous, au point de départ, on est incapables. Allez un peu plus loin. Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26. Et on va lire le verset 13. Un verset tellement encourageant. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Vrai ou pas vrai? Avant qu'on connaisse le vrai Dieu, on avait tellement de faux dieux qui ont dominé sur nous et de faux enseignements qui nous ont été donnés qui ne correspondaient pas à la parole de Dieu et à la vérité biblique, ni à ses lois, ni à ses fêtes. D'autres maîtres ont dominé sur nous. On reconnaît ça devant notre Dieu, puis on lui dit « Merci de nous avoir révélé. » Ça nous a été donné. On n'a pas mérité ça. Ça nous a été donné. Éternel, notre Dieu, d'autres dieux que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Parce que Dieu nous l'a donné, parce que le Christ est venu et il nous a révélé le Père, et parce que au moment de notre baptême, on a reçu l'Esprit Saint, un dépôt de la vie éternelle, le Christ en nous, et qu'à ce moment-là, on peut voir la splendeur du plan de Dieu, la majesté divine, comment il pense, comment il agit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et regardez le verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, et la vraie paix, elle vient de Dieu pour son petit peuple actuellement. Et quand le Christ bientôt sera revenu sur la terre, la vraie paix va être établi à la grandeur de la planète. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça, c'est notre fête des pains sans levain. Ce serait décourageant s'il fallait, par nos seuls moyens, essayer de se débarrasser de nos faiblesses ou de nos manquements ou de nos fautes, de nos transgressions. Mais c'est grâce à lui seul qu'on peut y arriver. Ce que nous faisons, Père, Dieu vivant, c'est toi qui le fais pour nous. C'est toi qui l'accomplis pour nous. Mais vous savez une chose, dans tout ça, plus on apprend à connaître le vrai Dieu, plus on voit sa pensée dans des versets comme celui qu'on vient de voir, plus on apprend à compter sur lui en toutes choses. On ne le fait pas parfaitement encore. J'en suis vraiment conscient, puis j'essaye de plus possible de le faire. Mais c'est important qu'on le développe, ça, parce que c'est là qu'est notre paix intérieure qui vient. Parce que les circonstances, plus souvent qu'autrement, nous dépassent. Les montagnes sont énormes à traverser. Les géants à abattre sont gros. Les adversaires, les ennemis en nous-mêmes sont énormes. Mais Dieu est plus grand que tout ça. Il faut apprendre à compter sur lui, à lui en parler en toutes circonstances, puis à se remettre à lui pour avoir la force de vaincre, pour avoir la force de continuer de nous repentir, pour ne pas retourner dans nos fautes, pour être capable de lui faire entière confiance, de connaître sa volonté, puis être capable de la faire, de l'accomplir. De plus en plus, et on en a parlé tantôt, Dieu manifeste sa présence actuellement dans son Église et pour chacun de ceux qui ont à cœur de lui obéir. Une présence d'amour, correction paternelle, parce que quand il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Présence de miséricorde, d'encouragement, de soutien, de délivrance de nos blessures anciennes, de nos chagrins, de nos soucis, de nos inquiétudes, et ainsi de suite. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour chacun de nous, ses enfants, individuellement. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a 10 jours avant la Pâque de cette année, on est parti, mon épouse et moi, pour la province du Nouveau-Brunswick. C'était le vendredi. J'avais un rendez-vous dans la ville de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, avec Mme Pauline Ouellette, que vous connaissez maintenant. C'était une deuxième rencontre de baptême. Après qu'on a eu fait 3 heures de route en voiture, il était à peu près 11 heures le matin. Il y a un voyant lumineux qui s'allume sur le tableau de bord de ma voiture. Ça indique un problème soit électrique ou un problème de batterie, mais je ne sais pas. Alors, je ne peux pas arrêter, parce que si j'arrête, je vais-tu être capable de repartir? Je suis à la grande route, je suis encore loin de mon but. Alors, je demande à mon épouse de regarder le livre de la voiture pour voir ce que ça veut dire. Ce que ça dit, c'est que dès que possible, rendez-vous chez le concessionnaire automobile. Donc, ce n'est pas mineur, il y a quelque chose d'important qui se passe. Mais moi, j'ai un rendez-vous, des rendez-vous en fait, et il ne reste pas grand temps. Rendez-vous de préparation au baptême, puis le lendemain, au sabbat, je prêchais à Edmundston, au Nouveau-Brunswick aussi. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Mon épouse a prié dans sa tête, moi aussi, on a prié ensemble, on a prié notre grand Dieu. Là, on était à plus ou moins 30 minutes de la ville la plus importante sur notre route, la ville d'Edmundston. Alors, mon épouse fait une recherche avec le cellulaire, trouve qu'il y avait un concessionnaire Toyota dans la ville d'Edmundston. Alors, j'espère que ça n'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas rendu là. On maintient le cap, on avance, on remet ça dans les mains de Dieu. Et là, il y avait des prières, bien sûr, mais j'ai aimé l'expérience. Ben, je vais vous dire quel genre de prière que Dieu m'a donné de pouvoir faire à ce moment-là. J'ai dit à Dieu, puis j'étais content, puis ça ne vient pas de moi, là. J'ai dit à Dieu, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire. J'ai hâte de voir comment tu vas régler la situation. Je te le demande, on te prie tous les deux, mon épouse et moi. Tu sais, j'ai une deuxième visite de baptême avec une dame pour qui c'est urgent, et je pense qu'elle est proche prête à être baptisée. Demain, il y a l'assemblée de sabbat. Si ça flanche, on est devant rien et tout est chambardé. Alors, j'ai hâte de voir, Père, ce que tu vas faire avec ça. J'ai hâte de voir, parce qu'on vient ici, c'est ta volonté, tu appelles cette dame-là, elle me semble prête au baptême, et quand tu nous montres qu'une personne est prête au baptême, on ne doit pas différer dans le temps. Donc, si c'est ça, il faut que ça se fasse. Moi, je ne suis pas capable de me rendre, j'ai un problème majeur. Alors, j'ai hâte de voir. Ça, j'ai dit à Dieu, puis je l'ai remercié d'avance. On est arrivé à Edmundston, 11h30. Je n'ai pas arrêté le moteur de la voiture devant le garage. Je suis entré en dedans. Personne ne me connaît, là. Je suis entré en dedans. Là, j'ai vu au service 2 hommes âgés qui avaient des clients. Alors, j'ai dit, je vais aller vers eux autres. Ils ont de l'expérience. Je vais pouvoir m'arranger. Il y avait un petit jeune dans le bureau à côté qui me voit rentrer. Et il dit, « Monsieur, est-ce que je peux vous aider? » Ça faisait pas trop mon affaire. Moi, ma solution à moi, c'était les plus âgés là, qui avaient de l'expérience. Alors, ce jeune homme-là, il disait, est-ce que je peux vous aider? Fait que j'ai dit, oui, d'accord, Jean, tu lui dis ça. Telle chose qui arrive, faut que j'aille à Grand Sault tantôt, j'ai des rendez-vous, je suis un peu mal pris, pouvez-vous me dépanner? Il dit, je pense que je peux vous faire rentrer dans une dizaine de minutes, je vais demander à un de mes mécaniciens de vérifier ce que vous avez et tout ça. Pas de rendez-vous, là. Puis il y avait des voitures dans le garage. Il rentre la voiture, il y a un mécanicien qui regarde la voiture. Midi moins quart, vendredi après-midi, le mécanicien revient, il dit, c'est l'alternateur qui a rendu l'arme. Alors, le jeune homme appelle un peu partout dans les environs, pas possible d'en trouver un. Ma voiture a presque 16 ans, donc elle reprend du prix. Maintenant, c'est une antiquité, mais pas moyen de trouver un alternateur pour... Alors, le jeune homme reprend le téléphone puis appelle un atelier d'usinage, connaît le monsieur, il demande s'il peut prendre mon alternateur, le mécanicien va le défaire et le remonter tout de suite, pour être prêt après dîner pour faire le changement. Il dit, oui, envoyez-moi-le. Alors, j'ai dit à Dieu, ah, c'est formidable ce que tu fais. Le chemin s'ouvre, là. Là, je ne demande rien d'autre au monsieur. Il dit, on s'en occupe. Il dit, je vais vous passer une voiture. Je n'ai pas demandé de voiture. Je vais vous passer une voiture. J'en avais besoin. Gratuitement, je ne fais pas affaire à ce garage-là. Quand Dieu dispose le cœur de quelqu'un pour que sa volonté se fasse, j'avais même des merci à dire au fur et à mesure. Alors, j'ai sauté dans cette voiture-là. On a pu faire la rencontre de préparation au baptême. La dame était effectivement prête. Je l'ai baptisée durant l'après-midi. J'ai eu ma voiture avant le sabbat. On a pu se reposer, faire le sabbat, et le lendemain, aller faire la réunion avec les frères là-bas à Edmundston. Formidable. C'est incroyable comment Dieu agit, comment Dieu répond. Dieu agit. Et toutes les impossibilités ont été éliminées. Ça, c'est vrai physiquement comme ça. Mais c'est vrai spirituellement aussi. Je fais la comparaison, je fais l'analogie. Parce que c'est important, puis ça nous encourage quand Dieu permet qu'on vive des choses comme ça, parce qu'on le voit intervenir. Puis ça nous encourage énormément. Mais c'est pas tout. Le lendemain, il y avait un couple qui était venu de 3 heures de route, de l'autre côté du Nouveau-Brunswick, qui était venu à l'Assemblée de Sabbat, Monsieur et Mme Doucette. Mon problème était arrivé vers 11 heures le matin. Vous savez ce que Mme Doucette m'a dit? Elle nous a dit à mon épouse et moi, lors du dîner, elle dit, vers 11 heures, je suis sorti prendre une marche dehors autour de la maison, il reste à la campagne. Et puis, je savais que vous vous en veniez, puis j'ai prié Dieu pour que Dieu vous protège puis qu'il vous amène sans problème jusqu'à nous autres pour l'Assemblée de Sabbat. Au même moment où le problème est apparu dans mon tableau de bord, au même moment, il y avait cette vieille servante de Dieu-là, l'autre côté du Nouveau-Brunswick, qui priait pour moi, qui priait pour nous, pour que nous puissions nous rendre sur place. Est-ce que Dieu répond pas aux prières? Est-ce que Dieu agit pas? Oh oui, Dieu répond. Et ça a été une expérience époustouflante. J'étais ému quand j'ai entendu ça. Et c'était juste avant la Pâque, juste avant les pains sans levain. Dieu répond aux prières, Dieu prend soin de nous autres, Dieu aplanit les sentiers et Dieu nous promet la victoire finale. Et c'est le même Dieu, là, avec la même puissance totale. Psaume 103. Psaume 103, s'il vous plaît. Psaume 103. Un autre passage extraordinaire ici. Psaume 103 et les versets 1 et 2. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. On a tellement de raisons de remercier Dieu. Quel que soit notre état, notre situation, notre passé, Dieu nous a appelés pour une vie nouvelle. Dieu nous a appelés pour nous guérir physiquement, émotivement, spirituellement. Et Dieu est un Dieu de promesses infaillibles. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et c'est là notre espoir. Qui guérit toutes tes maladies. Comprenez-vous pourquoi la fête des pains sans levain qui suit la Pâque est une fête de joie, une fête d'enthousiasme? C'est parce qu'on a, par Dieu, par la présence de Dieu en nous, l'assurance de pouvoir être délivré du mal si je reste proche de lui. Si je le supplie régulièrement de me bénir en me donnant de plus en plus de me repentir, parce que c'est lui qui me donne de me repentir. Si j'éprouve encore de la difficulté, il faut que je lui demande encore et il faut que j'insiste. et que j'insiste et que j'insiste. Et je vais vous donner un exemple de ça tantôt qui va vous encourager. Parce que ça aussi, de repentir, ça vient de lui. Mais il faut que je lui demande et que je lui redemande et que je lui redemande avec une insistance assidue. Si je demande à Dieu des choses selon sa volonté, il nous l'accorde toujours. Qu'est-ce qui me donnait de l'assurance sur la route? Vous savez quoi? Je commence à le connaître après plus de 35 ans dans l'Église. C'est que je savais que c'était selon sa volonté. Alors, je pouvais aller devant lui et dire, « Père, je sais que c'est ta volonté. Alors, j'ai hâte de voir comment tu vas régler le problème, comment tu vas me permettre d'accomplir ton œuvre, parce qu'il faut que je l'accomplisse. » Et il répond toujours quand on demande des choses selon sa volonté. Il est heureux de répondre à celui et à celle qui lui demande d'être capable de se repentir davantage. Parce que c'est le chemin de la vie éternelle, c'est le chemin du bonheur qu'il veut nous donner. C'est son but. Dieu a appelé chacun de nous, pas pour que nous manquions notre coup. Qui que nous soyons, quel que soit notre passé, quelles que soient nos blessures passées ou quoi que ce soit, Dieu nous appelle pour que nous réussissions. Mais vous savez une chose aussi, c'est qu'on doit prouver à notre grand Dieu qu'on tient vraiment, qu'on tient absolument et par-dessus tout, à n'importe quel prix, à arriver à ce but-là, à l'atteindre le but, à vaincre nos faiblesses, à vaincre les voies mauvaises du monde autour de nous, à vaincre le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle qui est en charge de la société. On doit lui prouver par notre attitude puis nos supplications répétées qu'on veut cesser de pécher par son aide, qu'on veut développer son caractère, qu'on veut changer totalement. On doit développer, vous savez quoi? Le même zèle puis le même enthousiasme qui ont caractérisé tous les grands serviteurs de Dieu de par le passé. Eux autres, ils nous donnent des exemples extraordinaires. Et on doit développer, demander à Dieu d'avoir le même zèle, le même enthousiasme que ses grands serviteurs dans le passé. Question. Est-ce que le sacrifice du Christ est vraiment précieux à mes yeux? Question de base. Est-ce que le sacrifice du Christ est vraiment précieux à nos yeux, à mes yeux? On en a parlé beaucoup, c'est pas pour rien, Dieu a inspiré cette année qu'on voit davantage en profondeur en quoi a consisté le sacrifice de Christ, justement pour qu'on en voit la valeur, qu'on l'apprécie et que ça nous enthousiasme. Est-ce que mon appel a sa juste valeur dans ma vie? Est-ce que mon appel est la chose la plus importante de ma vie? C'est ma vie! Parce que c'est le début de mon chemin vers la vie éternelle. Il peut avoir rien de plus important que l'appel de Dieu et que ce que mon Dieu me demande de faire. Parce qu'il veut tout me donner, tout me donner. Autre question, à quel point la vie éternelle dans la famille divine a-t-elle réellement une signification profonde pour moi? Parce que c'est à ça qu'on est appelé, à devenir des êtres spirituels de même nature que le Christ, ayant revêtu son caractère et faisant partie éternellement de la famille divine. Rappelez-vous une chose, en ces temps de la fin, ce qui différencie les Philadelphiens des Laodicéens, c'est leur zèle. Pour plaire à Dieu, leur zèle pour se soumettre totalement à lui, pour accomplir son œuvre, pour porter du fruit de repentance et du fruit de son esprit de plus en plus. Le Christ a dit lui-même, c'est comme ça que mon Père sera glorifié. Hein? On en a parlé le soir de la Pâque. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est comme ça que mon Père sera glorifié et c'est comme ça que vous serez mes disciples. À ceux qui ne sont pas enthousiasmés par Dieu, à ceux qui ne sont pas enthousiasmés par ses voies, par son plan, par son œuvre, à ceux qui sont appelés, mais qui ne sont pas enthousiasmés, le Christ dit qu'ils sont laodicéens. Il ajoute ceci dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, en parlant de ceux qui sont négligents qui ne voient pas le rappel comme la chose la plus importante et qui ne voient pas comme priorité dans leur vie de faire la volonté de Dieu et de vaincre, de se débarrasser totalement de leur faiblesse par la puissance de Dieu. Il dit ceci, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Ça a plus ou moins d'importance dans la vie de certains. Et c'est malheureux. C'est le Christ qui parle. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. » Il y a une phrase lourde de conséquences que le Christ prononce après. « Je te vomirai de ma bouche. » C'est pas peu de choses, là. Il ne parle pas de gens du monde, ici. Il parle de gens de l'Église qui ont été appelés, mais qui ne prennent pas vraiment au sérieux leur appel, leur responsabilité, la grandeur de ce que Dieu leur offre. Une fois que le Tout-Puissant nous donne de découvrir la perle de grand prix, qu'est-ce qui peut y avoir de plus important? Qu'est-ce qui peut y avoir de plus enthousiasmant? Et vous et moi, on sait ce qu'on a à faire pour être bouillant, pour être zélé, c'est-à-dire pour être des Philadelphiens comme la Bible le décrit. C'est simple, 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 simple. C'est des petites règles de base. Premièrement, se nourrir du Christ, c'est-à-dire étudier, approfondir sa parole chaque jour. Si Dieu est le premier dans ma vie, que je veux connaître sa volonté, que je veux la faire, comprenez-vous que je dois chaque jour me nourrir du Christ, comme c'est marqué dans Jean 6, verset 57. Deuxièmement, prier chaque jour de tout cœur, avec insistance puis avec des supplications. Et parfois, vous savez, ça va bien prier, hein? Parfois, là, on parle à Dieu, puis on continue, puis ça va bien, puis on a plein de choses à dire. D'autres fois, ce n'est pas le cas. D'autres fois, on dirait que notre prière ne va pas plus loin que le plafond, ou les idées ne viennent pas. Mais ça, c'est humain. Parce que la prière, c'est aussi un travail. Et il faut persister là-dedans aussi. Et Dieu veut voir si on persiste. Comme un petit enfant qui demande quelque chose à son père, son père, souvent, ne lui donne pas tout de suite et il est obligé de revenir à la charge, de lui en parler, d'insister, de tenir à ce qu'il demande. Alors, premièrement, se nourrir du Christ chaque jour. Deuxièmement, parler à Dieu chaque jour au nom du Christ et de lui demander de nous donner ce zèle dans nos prières. Les prières de Mme Doucette du Nouveau-Brunswick, c'était des prières zélées, enthousiasmées, qui savait que Dieu répond aux prières et qui demandait que sa volonté soit faite, qu'ils puissent avoir la visite ministérielle qui était prévue pour eux. Vous irez voir dans Hébreux 5, le verset 7 à 9, l'exemple du Christ, qui a prié Dieu avec insistance, avec des supplications. On le voit à différentes occasions, ça. Il a prié Dieu avec des grandes supplications, le Christ, le Fils de Dieu lui-même. Hébreux 5, versets 7 à 9. On va y aller, ça vaut la peine. Hébreux 5, parce que c'est notre exemple parfait, là, lui. Hébreux, chapitre 5, et le verset 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était un être humain limité, quand il s'était dépouillé de sa puissance, de sa divinité, c'est lui qui a présenté avec de grands cris, pas à peu près, là, et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et vous savez de quelle façon il a prié le soir de la Pâque avant d'être mis à mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous aussi, on passe par des souffrances. Et ça ne doit pas nous étonner. Mais dans ça, on doit demander à Dieu de nous donner la force et la vision de continuer, de persévérer, de passer à travers. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et c'est lui qui donne la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Étude biblique chaque jour, prière chaque jour et aussi régulièrement utiliser un outil puissant, le jeûne. Et remarquez bien une chose, quand on commence à se sentir faible spirituellement, c'est le temps de faire un jeûne. Même si ça ne nous le dit pas, la nature humaine ne court pas après ça. On ne cherche pas à ne pas manger, on aime manger. Mais si je sens que spirituellement, je commence à faiblir, à avoir moins d'enthousiasme, à être moins zélé, c'est le temps de faire une pause puis de jeûner devant Dieu. Et si vous avez remarqué, quand vous le faites régulièrement, après un jeûne, là, on repart, puis c'est comme si on avait des ailes. Hein? C'est ça, hein? Comme si on avait des ailes. Et si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'obstacles qui sont éliminés devant nous. Pourquoi? C'est simple. Parce que Dieu a vu qu'on tenait à lui, qu'on tenait à être proche de lui, et Dieu aplanit les sentiers. Dieu répond à ceux qui le cherchent. Pas pour rien que le Christ, à un moment donné, vous pourrez aller voir dans Matthieu 17, verset 21, quand les apôtres n'ont pas pu chasser certains démons, à un moment donné, le Christ leur a expliqué. Il dit, cette sorte de démon-là ne peut être chassé que par la prière et par le jeûne. Donc, le jeûne a une puissance extraordinaire devant Dieu. Quand on jeûne pour les bons motifs, quand on jeûne pour demander à Dieu de nous donner, de nous repentir davantage, d'être plus proche de lui, puis de faire sa volonté. David utilisait ces trois moyens. Hein? Régulièrement, on le voit dans ses écrits. Et il était proche de Dieu. Il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être proche de Dieu, et plus vous allez être quelqu'un selon le cœur de l'Éternel. Et vous allez être sous ses bénédictions et sous sa protection. C'est ce qui se passe dans ce temps-là. Psaume 42, versets 2 et 3. Tellement encourageant encore. Psaume 42. Psaume chapitre 42. Et le verset 2 et 3. Regardez comment David parle à Dieu ici. Ça démontre son attitude face aux lois de Dieu, face à son Créateur. Comme une biche soupire auprès de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et parfois, lorsqu'il y a des années de sécheresse, par exemple, les biches, les chevreuils respirent l'air pour trouver où il peut y avoir un point d'eau. Parce que justement, leur vie dépend du prochain point d'eau qu'elles vont trouver. Et votre vie spirituelle, comme ma vie spirituelle, ma vie éternelle, dépend de mon Dieu. Et regardez le verset 3, ce que David dit. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Il faut être là debout quand le Christ va revenir. Parce que là, on va paraître devant la face du Christ à son retour. Marcher d'une façon digne pour échapper aux choses qui viennent et paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a plein d'exemples de serviteurs de Dieu qui ont été zélés, enthousiastes, qui ont été engagés. Regardez le cas de M. Armstrong. M. Armstrong a travaillé fort, il a été critiqué, il a été malmené de toutes sortes de façons, mais il a toujours tenu le coup. M. Armstrong a même dit à un moment donné, « Si je dois être seul pour terminer cette œuvre-là, je vais la terminer seul. » Il avait trouvé la perle de grand prix et il n'y avait rien pour le faire détourner du mandat qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et vous et moi, on a reçu le même mandat d'annoncer l'Évangile, de soutenir l'œuvre, de prier pour l'œuvre, de nous développer, d'apprendre les lois de Dieu, parce qu'on va devoir bientôt les enseigner, les montrer à un monde qui en a absolument besoin. Regardez les dirigeants actuels de l'Église, les évangélistes de longue date, ordonnés par M. Armstrong, M. Appartient, M. Ames, M. Meredith, sont là depuis 40, 50, 60 ans dans le ministère, à prêcher le même message et regardez-les avec le même zèle, avec le même feu, sinon davantage, même après toutes ces années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont laissés conquérir par Dieu et que leur décision a été prise, la détermination de ne jamais quitter. Détermination de ne jamais quitter. D'ailleurs, Paul a fait preuve de ce même genre de zèle-là aussi et d'un engagement remarquable. Philippiens 1. Philippiens chapitre 1. Ça, on peut regarder les serviteurs de Dieu qui ont marqué l'histoire ou qui marquent l'histoire, et ça nous donne des exemples à suivre. Paul a fait preuve du même zèle, du même engagement remarquable. Ici, dans le contexte, il était en prison. Est-ce qu'il se lamentait sur son sort? Est-ce qu'il accusait ceux qui l'ont mis en prison? Est-ce qu'il trouverait des raisons pour dire c'est la faute à d'autres ou non? Paul faisait comme M. Armstrong a fait. Il avait une mission et il a dit, « Moi, je vais finir ma mission parce que je travaille au niveau d'un nouveau gouvernement qui va venir sur la terre justement pour libérer l'humanité. » C'est l'appel de grand prix, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du merveilleux monde à venir qui va libérer enfin les êtres humains. Il était en prison, mais Paul se réjouissait du fait que l'Évangile continuait d'être prêché. Il ne regardait pas sa personne. Il ne regardait pas ses circonstances à lui ou la maladie dont Dieu ne l'avait pas guéri. Il ne regardait pas ça, mais il regardait l'œuvre à finir, sa mission. Philippiens 1, verset 19 à 20. « Car je sais que cela tournera à mon salut. » Il avait confiance que la volonté de Dieu allait se faire. Il savait pas comment ça allait se terminer. Il était en prison. Mais si Dieu avait permis qu'il soit là, c'est que Dieu voulait que ce soit ainsi pour ce moment-là. OK? Alors, je ne sais pas comment ça va tourner, mais je sais que ça va tourner à mon salut. Grâce à quoi? Grâce à vos prières. Et je remerciais justement quelqu'un tantôt de prier pour les autres et de prier pour moi. Et j'ai remercié Mme Doucette d'avoir prié pour nous sur la route. Elle ne savait pas que nous avions un besoin, mais Dieu avait mis dans son cœur de penser à nous, puis elle a eu l'élan de demander que tout aille bien pour nous. Alors regardez ce que Paul dit ici. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, et bien sûr, par-dessus tout ça, parce que Dieu soutient toutes choses, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » En dessous de tout ça, il y a le rocher des siècles, El Shaddai, le Tout-Puissant, qui, lui, donne sa force. Selon ma ferme attente et mon espérance, verset 20, je n'aurai honte de rien, même si je suis en prison. Mais maintenant, comme toujours, le Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car le Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Et si je dois mourir, si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. Voyez-vous, Paul voyait le grand but, Paul voyait l'objectif. Question. Est-ce que vous et moi, nous avons ce même engagement zélé et enthousiaste? On n'est pas rendu au maximum. Il faut continuer. Demandez à Dieu, demandons à Dieu de nous donner ce zèle-là, de mettre ce feu dévorant-là en nous pour vaincre, pour croire, pour accomplir l'œuvre. De sorte que le Christ soit magnifié dans nous. Que ça paraisse à un moment donné que nous sommes dirigés par un autre esprit que l'esprit du monde ou que l'esprit charnel. Que le Christ soit magnifié dans ma façon de vivre. Est-ce que nous tenons à tout prix à plaire à Dieu? Il faut se demander cette question. Est-ce que je tiens vraiment à tout prix là, à plaire à Dieu? Est-ce que je tiens à tout prix à faire sa volonté, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me retrouve? Obéir à Dieu quand ça va bien, oui. Obéir à Dieu aussi quand ça va mal, oui. Obéir à Dieu quand on est en santé, oui. Obéir à Dieu et chercher à lui plaire quand on est encore malade, oui. Voyez-vous, comme Paul nous en a donné l'exemple, dans le fond. Lui a passé par toutes les circonstances imaginables, puis des circonstances extrêmes que nous, on n'a pas connues. Mais, dans tout ça, il n'a jamais perdu de vue le Christ, l'auteur et de la foi et celui qui l'amène à la perfection et le but de son appel. Maintenant, je vais arrêter sur un autre exemple biblique de quelqu'un qui a appris à tenir à tout prix à appartenir à Dieu, puis qui lui a prouvé. Et il faut que ça devienne notre exemple. Vous avez sans doute jamais vu cet événement-là que je vais vous décrire dans l'optique que je vais vous le montrer. Mais une fois que vous allez l'avoir vu, je pense que vous ne l'oublierez pas. Puis vous allez le garder comme un modèle. C'est très, très puissant comme exemple. Et on remonte loin dans le temps. On remonte au petit-fils d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. À Jacob. L'exemple de Jacob, notre ancêtre, l'ancêtre des Israélites, des nations israélites. Jacob a dû en arriver à ce point-là, à un moment donné, en arriver à tenir à tout prix, à appartenir à Dieu et à faire sa volonté, quelles que soient les circonstances. Il a fallu qu'il arrive par une expérience incroyable à ce point-là et il a prouvé à Dieu qu'il voulait vraiment lui appartenir. C'est une expérience hors de l'ordinaire qu'il a vécue. Et cette expérience-là que je vais vous décrire, elle est très significative pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous, on est Israël spirituel, hein? On est Israël spirituel. On est la famille de Dieu, le petit troupeau des appelés. C'est pas seulement des Israélites de sang, parce que Dieu maintenant appelle des gens de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, pour former une équipe en préparation pour servir dans le monde à venir. Alors, le juif, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair par la circoncision, mais ce l'est par celui qui a un changement de cœur. C'est les pains sans levain aussi. Alors, vous savez que dans l'histoire, notre ancêtre Jacob, on peut lui donner deux qualificatifs qui ne sont pas tellement flatteurs. Parce que Jacob était un manipulateur hors pair et que Jacob était un tricheur presque sans pareil. Vous connaissez son histoire. Notre histoire n'est pas tellement glorieuse quand on regarde ce qu'on était, nous, avant que Dieu nous appelle. Fait que ne jetons pas la pierre. Lorsqu'on habite dans une maison de verre, on ne jette pas de pierre à personne. OK? Alors, c'est le cas de tous les êtres humains. On a tous des faiblesses, certains plus sur un côté, d'autres plus sur d'autres. Mais Jacob était un manipulateur et un tricheur. Il a usurpé le droit d'aînesse de son frère Ésaü, vous vous rappelez? Quand il est revenu de la chasse, puis il a négocié, quand il a vu que l'autre avait faim, puis tout ça, il a trouvé le moyen d'y vendre pour un plat de lentilles l'idée de recevoir le droit d'aînesse. Pas seulement ça, mais par après, il a fait croire à son père, pour avoir la bénédiction de son père, qu'il était Ésaü. Il avait revêtu une peau d'animal, il avait amené du gibier, et là, son père était vieux, il allait mourir, et il voulait avoir la bénédiction pour avoir toutes les bénédictions que son frère, l'aîné, devait avoir. Et il a réussi à déjouer son père, parce que son père a senti l'odeur des peaux d'animaux, il pensait que c'était Ésaü, et il l'a béni parce qu'il était aveugle à ce moment-là, Isaac, lorsqu'il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Bon. Alors, voici notre homme. Je vous décris deux de ses caractéristiques peu flatteuses. Mais ce n'est pas resté comme ça. Parce que Jacob s'est finalement tourné vers Dieu de tout son cœur. Vous allez voir. Par une sorte de conversion. Par une sorte de conversion. Allez à Genèse 32. Genèse chapitre 32. C'est fascinant de voir ce récit-là dans l'optique où on va le voir. Genèse, chapitre 32. Pour vous faire une histoire courte, au moment où on va lire ici, c'est que Jacob est en route vers son pays. Selon l'ordre de Dieu, Dieu avait donné l'ordre de retourner dans son pays. Alors Jacob a pris le chemin avec ses épouses et ses enfants. Alors là, il est en route. Sauf que Ésaü n'était pas tellement content de s'être fait jouer. Alors Ésaü s'en venait pour régler le compte de Jacob. Et il s'en venait avec 400 hommes armés. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Jacob était là avec ses femmes et ses enfants, il s'en allait vers son pays. Je peux-tu vous dire qu'il cherchait un moyen de s'en sortir? Et c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir que de se tourner vers Dieu. Et parfois, Dieu nous place dans certaines situations où il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir que de se tourner vers lui. Et c'est justement ça qu'il veut qu'on apprenne. De toute façon, ça va être aussi l'histoire de l'humanité qui va connaître la grande détresse bientôt. Ceux qui vont survivre n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers Dieu en étant disposés à ce moment-là à écouter puis à regarder, voir s'il n'y aurait pas un autre moyen de vivre que celui qui les a menés dans la catastrophe qu'ils auront connue à ce moment-là. Donc, Jacob est en route vers son pays. Son frère s'en vient pour l'attaquer. Et là, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu. C'était sûrement pas une prière du bout des lèvres. Hein? Il crie à Dieu. Ça fait penser au Christ qui a crié vers son Père là, lorsqu'il était proche de passer des souffrances incroyables. Genèse 32, versets 6 et 7. Les messagers de Jacob revinrent auprès de lui en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Une peur extrême, une angoisse extrême. Verset 9. Jacob dit, et là Jacob prie Dieu, « Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. » Voyez-vous, il rappelle à Dieu ce que Dieu lui a demandé de faire. OK? Et parfois, on peut rappeler à Dieu ce qu'il nous a demandé de faire pour nous aider de le faire comme il faut. « Retourne dans ton pays, dans le lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. » Voyez-vous la promesse que Dieu y avait faite? « Retourne dans ton pays, je vais te faire du bien. » Alors, Jacob, il va devant Dieu. Il crie à lui, il dit, « Dieu, tu m'as dit de retourner dans mon pays, que tu me ferais du bien. » Regardez ce qu'il dit après, verset 10. « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Attitude d'humilité. « Je suis rien, moi. J'ai besoin de toi, totalement. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » On continue l'histoire. Pas longtemps après, la nuit suivante, un événement frappant, un événement intriguant. On va le lire tout d'un bout et après on l'explique. Versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. » Je vais revenir là-dessus tantôt. Et il lui dit, donc l'homme qui lutte avec Jacob lui dit, « Quel est ton nom? » Jacob répond, et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu en face et mon âme a été sauvée. C'est-à-dire, mon âme a été épargnée, je ne suis pas mort. même si j'ai vu Dieu en face. Alors, Jacob savait qu'il luttait avec le Christ. Parce qu'on sait que le Dieu de l'Ancien Testament qui se manifestait, c'était le Christ. Le Père n'a jamais été vu par aucun être humain, comme la Bible le mentionne. Mais c'était le Christ qui avait pris une forme humaine et qui luttait avec Jacob dans un but bien précis. Et ça a été là le point tournant de la vie de Jacob. Jacob a lutté avec le Christ, si vous remarquez, toute la nuit. Toute la nuit. Parfois, Dieu répond à nos prières au dernier moment. Parfois, Dieu répond à nos prières au dernier moment. Après que nous ayons développé un esprit de prière assidu puis insistante, après qu'on a insisté et insisté, et après que notre cœur se soit soumis avec foi. Dieu permet ce laps de temps, dans certains cas, parce qu'à ce moment-là, là, on peut recevoir la bénédiction. On a l'attitude qu'il faut pour être béni. C'est fascinant de voir comment Dieu travaille avec nous. La même chose qu'avec Jacob, là. Et c'est le Christ qui travaille en vous et qui travaille en moi, ceux qui ont reçu son Saint-Esprit. De toute évidence, il s'agissait là d'un test pour voir à quel point Jacob désirait la promesse de Dieu. C'était un test du Christ pour voir à quel point Jacob tenait à recevoir la bénédiction promise. Jacob, il dit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Au début de sa prière, il a dit, « Tu m'as dit que tu me bénirais. Tu m'as demandé d'aller dans mon pays, tu m'as dit que tu me bénirais. » Alors Jacob s'est accroché à ça. Comme nous, on doit s'accrocher aux promesses de Dieu qui nous dit qu'il va répondre à ceux qui le cherchent, qu'il va délivrer ceux qui lui demandent la délivrance, et ainsi de suite. C'est une promesse assurée. Jacob a dit à Dieu, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Je pensais à ça l'autre jour que j'en parlais à Dieu. Moi, je disais à Dieu, « Je ne te laisserai jamais partir. » Je ne veux jamais que tu partes, parce que je ne veux jamais me détourner de toi, puis je ne veux jamais que tu m'abandonnes. Donne-moi de ne pas t'abandonner, parce que je veux être toujours avec toi, puis toujours te servir, puis toujours servir le Christ. La réponse du Christ, ça a été quoi? Vous le savez, verset 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob savait qu'il luttait avec le Christ. Il savait que le Christ était plus fort que lui. Vous n'avez jamais arrêté à penser à ça? Le Christ était beaucoup plus fort que lui. Mais Jacob savait une chose aussi. Vous l'avez vu un peu dans les versets qu'on a lus, mais vous ne l'avez pas saisi tout à fait. Je vais vous l'expliquer. Jacob savait aussi que le Christ était limité dans son action envers Jacob. Le Christ était limité dans son action, dans sa lutte avec Jacob, par la promesse qu'il lui avait faite de le bénir. Alors, comprenez-vous qu'il ne pouvait pas le détruire, parce qu'il avait dit, « Je vais te bénir. » Et c'est ça que Jacob lui a dit. Il dit, « Tu m'as dit que tu me bénirais. » Alors là, il a insisté. Puis il a lutté avec lui, il a tenu le coup. Puis le Christ a fait durer le test, mais Jacob savait que le Christ ne pouvait pas mentir parce que le Christ ne ment jamais. Et comme il avait dit qu'il allait le bénir, il allait le bénir. Il n'allait pas le détruire. Dieu nous a dit qu'il nous bénirait quand il nous a appelés. Je vous ai dit tantôt, il ne nous a pas appelés pour qu'on manque notre coup. Il nous a appelés pour qu'on réussisse. C'est une promesse. La seule personne qui peut faire défaut dans l'alliance qui a été signée dans le sang de Christ entre moi et mon Dieu, c'est moi, c'est pas Dieu. C'est pour ça que moi, il faut que je tienne. Comme Jacob a tenu toute la nuit. Jacob ne voulait pour rien au monde perdre cette occasion en or de s'assurer la bénédiction promise. Il dit ça, je ne manquerai pas ça. Ça, je ne manquerai pas ça, parce que je sais que ce qu'il a dit, il va le faire, donc je lui demande et je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Et c'est comme nous. Et on doit insister auprès de Dieu, parfois pour avoir la victoire sur certaines faiblesses. Ne pas essayer une fois ou deux ou trois. Il y a certaines faiblesses qui demandent de lutter pendant plus longtemps et d'insister auprès de Dieu pour arriver à vaincre. Et vous savez une chose, il n'y a rien qui plaît davantage à Dieu que de vous voir tenir à tout prix à lui, que de vous voir apprécier son appel, de vous voir désirer à tout prix vaincre, faire sa volonté, changer selon ce qu'il veut que vous changiez. Parce que Jacob y est allé à fond avec un zèle ardent, même dans les douleurs. Ça faisait mal, là. Puis en plus, sa hanche était déboîtée le matin. C'était douloureux. Parce que Jacob y est allé à fond avec un zèle ardent, même dans la douleur, Dieu lui a donné la victoire. Il a changé son nom. Jacob, ça veut dire usurpateur. Ça veut dire tricheur, le sens du mot. C'est pour ça qu'il a changé son nom. Il dit, Jacob, avant ça, tu étais usurpateur, tu étais tricheur. Maintenant, je vais changer ton nom. Parce que là, je sais que tu veux avoir la bénédiction de vaincre et de me plaire et de me servir. OK? Alors, tu ne seras plus appelé de ton ancien nom pécheur, mais je vais te donner un nouveau nom. Tu vas maintenant être appelé Israël. Et c'est marqué dans le texte, et vous pourrez faire des recherches. Ça veut dire celui qui a vaincu avec Dieu. Celui qui a vaincu avec Dieu. C'est ça que ça veut dire le nom Israël. Ou ça veut dire aussi prince de Dieu. Israël, ça veut dire celui qui a vaincu avec Dieu. Et souligner le mot avec. Et ça veut dire aussi prince de Dieu. Maintenant, je pose la question. Pourquoi est-ce que le Christ n'a pas battu, terrassé Jacob dès le début du combat? Parce qu'il y a eu un combat physique qui a duré toute la nuit. Puis le Christ était plus fort. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas battu tout de suite? Le Christ aurait pu l'écraser, il aurait pu le maîtriser dès le début ou à tout moment. Même si le Christ avait pris une forme humaine, il y avait en lui-même à ce moment-là la grande puissance de Dieu. Parce que là, il n'était pas né de la Vierge Marie. OK? Il n'était pas né de la Vierge Marie. Et il n'était pas limité à la force humaine, comme ça a été le cas quand il est venu et qu'il est né d'une Vierge et qu'il était simplement humain. C'était là, le Dieu vivant qui se manifestait dans une chair humaine, comme il avait fait avant lorsqu'il était venu sous la forme de Melchisédek, le roi de Salem. OK? Alors, donc, il aurait pu utiliser sa puissance pour le détruire ou le maîtriser. Mais Dieu mettait Jacob au test pour voir si, contrairement à son frère Ésaü, qui était un lâcheur, parce qu'Ésaü avait abandonné son droit d'aînesse